Et nous recevons Babette. Bonsoir Babette.
Bonsoir Catherine, merci de m'accueillir.
Oh mais merci d'être là avec moi, c'est formidable. Oui. Alors racontez-moi Babette, quel est votre sujet?
Alors je vais planter le décor, c'est-à-dire que je suis une femme qui vient d'avoir 71 ans.
Oui.
J'ai été mariée 33 ans avec un monsieur avec qui j'ai eu 3 enfants. Il m'a quittée le 1er février 2008, une procédure de divorce qui a duré jusqu'en 2012.
Jusqu'en 2012, 2012, c'est ça ? Oui, d'accord.
2012, avec divorce très très conflictuel, car mon ex-mari de toute façon ne m'aimait plus, c'est ce qu'il m'a dit. Enfin, il avait 6 ans de moins que moi, hein, donc lui a actuellement 65 ans.
D'accord.
Et il m'a dit ouvertement, je ne t'aime plus, je ne ferai pas ma retraite avec toi. Donc il est parti. Depuis, il a une personne avec qui ça se passe très très bien, même vis-à-vis de mes enfants. Donc pour lui, tout va bien. Mais moi, je vis très chaotiquement, c'est-à-dire que j'ai eu du mal déjà. Ce divorce m'a beaucoup chahutée. Enfin, j'ai été très 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 mal. Et puis, dans l'année 2009, je me suis mise sur un site de rencontre fin novembre 2009. Et j'ai rencontré un monsieur qui habitait pas très loin de chez moi, à 5 km dans la ville d'à côté. Oui. Alors ce monsieur, je l'ai rencontré une première fois. Il est venu se présenter chez moi à l'époque. J'habitais encore dans la maison familiale. On a pris un café, on a discuté, tout ça. Et puis bon, il est parti en me laissant ses coordonnées et tout ça, moi aussi. Et je ne l'ai pas revu pendant quelques mois. Mmh. Et puis en janvier, donc 2009 se passe, fin 2009, début janvier, fin janvier, je reçois une vidéo de vacances, sans plus de commentaires. Et puis bon, de temps en temps, un petit message.
D'accord.
Et puis c'est tout. Et donc ça, c'était donc de 2009-2010. Fin 2011, je le revois dans les rues de la ville où il habitait. Mm-hmm. Donc, il était un sac. C'était pendant les soldes. Donc on se dit bonjour, tout ça. Puis il me dit, j'aimerais bien te revoir. J'ai dit, si tu veux. Donc on prend date. Et puis au mois de janvier suivant, donc ça c'était donc 2012, je le revois juste avant que je parte en vacances, fin janvier. Et là, il me dit, j'ai rencontré quelqu'un en même temps que toi, je suis avec cette personne. Enfin, j'ai dit, très bien, on reste copains. Et donc, dans l'année 2012, cette personne avec qui il était, ça n'allait plus.
D'accord.
Donc, elle est repartie chez elle. Elle habitait dans le Loiret, cette femme.
Mm-hmm.
Et puis, il a fait appel à moi. Donc, on s'est vus, revus. Et comme il avait un appartement dans la ville où il habitait, et moi dans la petite ville à côté, donc on se voyait fréquemment. Chacun, on gardait chacun nos distances, mais on se voyait pratiquement tous les jours. Hein. On allait chez l'un et chez l'autre.
Mm-hmm.
Et puis...
Et c'était toujours d'ordre amical ou on était passé là plutôt quelque chose
d'un... passé à la vitesse supérieure, d'accord. On avait des relations intimes et ça se passait très bien, en plus. Donc voilà, et puis il m'a emmené, il avait un mobilhome à l'époque à Saint-Hilaire-de-Riez, donc on allait à Saint-Hilaire de temps en temps. Et puis un jour, je ne sais pas trop ce qui s'est trop passé dans ma tête et dans la sienne, on s'est disputé beaucoup et il m'a ramené chez moi.
Mmh.
Et puis, il m'a ramené chez moi, toutes les affaires, tout ça. Et puis, j'ai appris après qu'il était reparti avec son ex.
Donc la fameuse qu'il avait rencontrée en même temps que vous.
Sur le même site de rencontre, dans le Loiret. Donc, pour ne pas nommer la ville, c'était Orléans.
Mmh.
Et puis donc, il repart avec elle. Et au mois de mai, il me rappelle.
D'accord.
Je dis, ah bon, qu'est-ce qui se passe? Bah, il me dit, je veux te revoir, voilà, avec cette personne que je ne nomme pas, mais bon, c'est fini, gnagnagna. Donc, il repart avec moi. Et ça, pendant les ruptures et les retrouvailles, tout ça jusqu'en 2014.
D'accord.
Voilà, et en 2014, il décide définitivement d'avoir une relation très sérieuse avec moi, c'est-à-dire qu'il ne voulait plus en entendre parler, tout ça. Donc voilà, et il est venu chez moi, habiter avec moi, mais chez moi. Mm-hmm. Donc voilà. 2014, malheureusement...
Ce qui vous rendait heureuse, enfin, vous étiez...
J'étais très amoureuse de cet homme, hein, mm-hmm. Franchement. Et lui, c'était pareil, hein, il y avait eu un coup de foudre qui m'a avoué bien après.
D'accord.
Donc, au mois de novembre, je perds mon papa, il se suicide à 91 ans. Donc, le jour de ma fête, en plus. Mm-hmm. Donc, voilà. Donc, évidemment, j'étais très choquée. Très, très, très choquée. Donc voilà, la famille s'est réunie. Bon, il était rentré dans la famille en plus. Moi, mes enfants, je l'avais fait connaître à mes enfants, qu'ils l'avaient bien accepté, et à la famille aussi.
D'accord.
Parce que je suis l'aînée d'une fratrie de 12.
D'accord.
De 12 enfants. Mm-hmm. Donc voilà. Et
lui-même avait des enfants ?
Alors, c'est un homme qui est divorcé, qui a trois filles, et dont deux de ses filles, il ne s'entend pas, il ne leur cause pas depuis le divorce avec leur maman.
D'accord.
Il ne voit que celle du milieu. D'accord. Et avec celle-là, j'ai des contacts encore actuellement. Donc là, on arrive en 2014, donc bon, voilà, ça se passe très bien. Et en 2015... j'étais obligée de partir de la maison familiale. Mon ex-mari m'a donné l'ordre de partir. Je n'avais pas besoin d'avoir une maison avec quatre chambres et tout ça. Donc, je suis partie. Et là, se pose le problème où je vais. Donc, il me dit, j'ai un petit héritage. Je vais acheter une maison dans la ville où tu es parce que tu aimes beaucoup. Ça faisait 40 ans que j'étais dans cette ville-là. Tout le monde me connaissait. Mm-hmm. Donc, il me dit, je vais essayer de trouver quelque chose qui te convienne, qui nous conviennent, et je vais acheter la maison.
Okay.
Donc, il achète une maison avec quatre chambres, un sous-sol, enfin, le rêve, quoi, pour moi, mm-hmm. le rêve.
Mm-hmm.
Et donc, on s'installe tous les deux avec des travaux, il fait des travaux, tout ça. Mais il l'a acheté pour me faire plaisir. Il l'a clamé bien des fois qu'il avait acheté cette maison-là pour moi, en fait.
Mm-hmm. Pour répondre à votre goût et à votre besoin.
Voilà, et c'est vrai qu'il m'a laissé faire la déco. Il a fait énormément de travaux. Hein. Il a pratiquement tout refait, d'ailleurs.
Mmh.
Bon, ça, c'est vrai qu'il a beaucoup travaillé dans cette maison. Et puis, bon, on a vécu 5 ans ensemble dans cette maison. Et fin 2019, il a vendu son appartement dans la ville d'à côté. Et au mois de décembre, il me dit, pour ton Noël et pour tes 70 ans prochains, je te paye un voyage à La Réunion. Alors moi, je suis tombée des nues. Je lui dis, il me fait très, très plaisir. Je dis, je vais pouvoir enfin aller voir mon frère qui habite La Réunion.
D'accord.
Donc, voilà.
Donc là, on est vraiment dans une jolie histoire d'amour.
Là, tout allait bien. Bon.
Mm-hmm.
Et puis au mois de janvier, je ne sais pas ce qui s'est passé. On avait l'habitude en janvier d'inviter sa fille, ses trois petits-fils, enfin ses deux petits-fils et sa petite-fille au début janvier pour fêter et Noël et le premier de l'an. Donc on fait ce repas comme tous les ans.
Mmh.
Et je ne sais pas ce qui s'est passé, quelle bouche l'a piqué ce jour-là. Mais il dit aux enfants, enfin à sa fille, ben voilà, j'emmène Babette à La Réunion, c'est son Noël, c'est pour ses 70 ans et tout ça. Bon. Puis au cours du repas, il y a eu une discussion. Et c'est un monsieur qui n'aime pas la contradiction, qui veut toujours avoir raison. Et ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, on était tous contre lui pour une discussion, alors je ne sais plus pourquoi. Il s'est mis très en colère et il a pété les plombs. Il a dit, vous commencez à me faire, voilà.
Mm-hmm.
Alors sa fille me regarde, elle me dit, dis donc, quelle ambiance ici. Et puis, je vais dans la cuisine, je reviens, et il me regarde droit dans les yeux, et il me dit, tu sais où tu es, toi ? Bah, j'ai dit, oui, je suis ici. Bah, il me dit, non, t'es chez moi. Mmh. Alors là,
Votre sang n'a fait qu'un tour ?
Ah oui. J'ai rien dit, je suis repartie dans la cuisine, sa fille m'a suivie. Elle m'a dit, mais il te parle tout le temps comme ça. Ben, je dis, tu sais, il y a quelques fois, oui, il n'est pas si facile que ça. Et c'en est resté de là. Mais moi, j'ai ruminé. Il ne s'est même pas excusé. Sa fille est partie, tout le monde est parti. Il ne s'est pas du tout excusé. Il a vu que je souffrais, mais rien du tout. Et puis, dans le mois de janvier, bon, ça passe. Au mois de janvier, son frère, qui habite sur Paris, descendait. Pareil, il a un petit appartement au bord de la mer, donc il descendait nous voir en même temps. Et puis, donc, tous les ans, on faisait la même chose, petit repas. Et donc, sa belle-sœur me dit, Babette, j'aimerais bien aller voir le haut, j'ai jamais vu le haut. Bah, j'ai dit, écoute, c'est le moment, on va y aller. Mm-hmm. Et là-haut, elle me dit, regarde, elle me dit, effectivement, c'est très grand, elle me dit, tu te dépatouilles bien. Bah, je dis, oui. Puis elle me regarde, puis elle me dit, ça va, toi, avec monsieur j'ai dit, tu sais, je suis un peu déçue. Elle me dit, il a toujours été comme ça avec les femmes. Et puis, il me dit, est-ce qu'il a des contacts avec l'ex
du Loiret.
Alors, je lui dis, non, je ne sais pas. Mm-hmm. Et puis, c'est tout. Et puis ça passe bien, voilà. On arrive au mois de février, au moment du confinement. Alors là, ça a été autre chose. J'ai vu complètement son comportement changer. C'est-à-dire que le portable n'était jamais sur la table, ni rien du tout. Il était toujours dans ses poches. Mmh. Et puis au confinement, là, ça a pété. C'est-à-dire qu'il m'a traité de débile. Qu'il ne fallait pas que je fasse le confinement. Lui, il partait tous les jours à 4 heures derrière avec un copain qui avait sa maison de derrière faire des boules. Tous les jours, il me laissait à 4 heures jusqu'à 20, enfin de 16h à 20h, 20h, 20h15. J'étais toute seule dans la maison. Et j'attendais monsieur pour manger. Mm-hmm. Voilà, pas un mot, rien du tout, pas un mot d'excuse, pas rien. Et puis, de fil en aiguille, moi aussi, j'ai commencé à me poser des questions. Et au mois d'avril, j'ai fait une demande de logement. Je me suis dit, il faut que je parte parce que ça ne va plus du tout entre nous. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Je me doutais un peu, mais bon, voilà, j'ai pris mes devants. J'ai fait une demande de logement. Et je pense qu'il a vu sur l'ordinateur cette demande de logement que j'avais mis dans les favoris. Mmh. Comme il servait toujours de mon ordinateur, je pense qu'il a dû regarder. Mmh. Il ne me l'a pas dit. Et au mois de mai, il a pété les plombs. Un matin, j'étais levée, moi je me lève de très bonne heure. Et lui, à 10h15, il n'était toujours pas levé. Je vais le voir, puis je lui dis, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Je lui dis, t'es pas encore levé. Alors là, ça a été le pétage de plomb. Oui, j'en ai marre. Je veux aller vivre au bord de la mer. Je veux plus rester ici. Tu commences à m'en... Enfin, des gros mots. Mm-hmm. Bon, c'est tout. J'ai dit, écoute, si t'es pas bien, je suis malade. Voilà. J'ai dit, si t'es pas bien, tu prends ta voiture et puis tu vas voir ton médecin. Tu demandes un rendez-vous chez le médecin. Il me dit, non, je vais prendre un cachet. Et puis voilà, donc il a pris son cachet. Et puis voilà. Et puis, de fil en aiguille, dans la même semaine, il me refait ça le samedi. Ça devait être au début de la semaine. Et le samedi, il va soi-disant faire le marché. Je ne l'ai pas revu de la journée. Mmh. Il est rentré. Alors, j'ai téléphoné à une amie qui avait l'habitude de le voir. Et vers 16h, alors moi à midi et demi, je l'attendais pour manger, j'ai vu personne. 2h30, je ne vois personne. 4h, je téléphone à cette amie qui habitait dans la même ville, enfin dans la petite ville où j'habitais, quoi. Mm-hmm. Elle me dit, oui, il est là. Elle me dit, falloir vous expliquer. Donc, il rentre vers 19h, et puis là, je l'ai attendu. Comme lui, il n'aime pas les explications, il fuit les explications. Oui, je lui dis non, tu vas t'asseoir, et puis on va s'expliquer. Et puis je lui dis, bon ben écoute, c'est simple, on va se séparer parce que je vois que ça ne va plus. Il ne m'a pas donné d'explication.
C'est vous qui avez dit ça, hein ? C'est vous qui avez proposé la séparation.
Oui. C'est moi qui a devancé le truc, hein, parce que je voyais bien que de toute façon, il cherchait à me le dire, mais comme il ne sait pas dire les choses, voilà. Et en plus, il m'avait fait une réflexion au sujet de... Parce qu'il avait été tondre la pelouse et puis il était revenu, il y avait un tapis rouge avec des trucs noirs, il avait des trucs de pelouse qui étaient... Alors, j'avais rouspété. Il m'avait dit, de toute façon, tu vas bientôt finir seul. Mmh. Alors, je l'avais regardé dans le droit dans les yeux. Puis, j'avais dit, bah, écoute, je serai seule peut-être. Mais genre, moi, j'ai mes enfants. Je ne suis pas fâchée avec mes enfants. J'ai des amis. Et il dit, moi non plus, je ne serai pas seule. Et ça m'est resté.
Bien sûr.
Je me suis dit, il y a quelque chose en dessous. Mmh. Et puis, c'est tout. Et il est parti le 4 juin. Prétextant qu'il fallait qu'il prenne l'air.
Donc de cette année
De l'année dernière.
Le 4 juin 2020,
il est parti avec des affaires pour aller au bord de la mer en me disant de toute façon, il faut que je prenne 15 jours de vacances. Alors je lui ai même fait sa valise. Il me dit qu'est-ce que je prends pour 15 jours ben, je lui dis bah, écoute, tu prends ça, moi, toute bête. Et puis j'ai vu. Par rapport à l'autoroute, qu'il était reparti à Orléans, tout simplement. Mmh. Donc j'ai compris tout de suite qu'il était reparti voir son ex. Et effectivement, il était avec elle. Il a donc acheté, il a vendu. Alors, on a vendu la maison en une journée. Mmh. Ce qui a fait qu'il a fallu que au mois de juin je me dégage de la maison. Mmh. Alors j'avais pas mal de meubles et tout ça, mes enfants sont venus chercher tous les meubles qui les intéressaient et tout ça. Donc j'ai retrouvé actuellement, je suis dans un petit appartement sur la ville à côté, dans un petit 52 mètres carrés, alors que j'avais toujours eu des maisons. Mmh. Et donc il a acheté un appartement à Royan. Mais je pense, maintenant avec le recul, qu'ils avaient bien ficelé leur truc. Vu qu'elle avait un appartement à Orléans, elle lui a dit bah, « tu vends ta maison et tu achètes un appartement au bord de la mer ». Pour moi, je pense que c'est ça qui s'est produit. Et puis donc, ça se passe, pas de nouvelles, rien du tout. Et au mois de novembre, fin novembre, c'est-à-dire vers le 20 novembre, je reçois un appel de ce monsieur sur WhatsApp. Je décroche. Il me dit j'ai des problèmes avec mon portable, je ne peux plus envoyer de message, je suis seule. Je voudrais te parler. Donc, mais à condition que tu n'en parles pas aux amis et à la famille. D'accord. Donc je lui réponds, tout à fait d'accord. Bon, je l'ai en visio, en WhatsApp, il se met à pleurer. Bon, je lui dis, écoute, non, ça suffit, tu ne pleures pas. J'ai dit, sans quoi moi je raccroche, hein, c'est pas la peine. Donc voilà, et il me parle de cette femme. Mmh. Et il me parle de cette femme dans des termes pas très élogieux. Il la démonte complètement. Et puis de là, jusqu'au 7 décembre, on se voyait 4 fois par jour en visio. Mmh. Et il me faisait croire, à l'époque, il me faisait croire que j'allais revenir avec lui. Et moi, ça me faisait plaisir aussi. Hein. J'y tenais. Hein. Donc, voilà quoi. Il me dit, oui, bah, tu verras quand tu viendras. Alors, il m'avait fait voir l'ensemble de son appartement. Il me dit, tu connais les meubles. Voilà, oui, pas de problème. Et puis, et voilà, jusqu'au 7 décembre. Et puis, le 7 décembre, dans l'après-midi, moi qui randonne pas mal, je pars en marche. Et je lui dis, il me voit partir en visio et il me dit à tout à l'heure. Je lui dis ben oui, tout à l'heure, vers 4h30, 5h30, voilà. Et depuis ce jour, cet après-midi-là, pas un mot.
Donc depuis décembre dernier.
décembre dernier, donc depuis le 7 décembre. Alors, je lui ai mis plein de messages, lui demandant des explications. Je lui parle aussi de cette femme. Je lui dis peut-être que tu as pris une décision de retourner avec elle. Je lui dis, j'aimerais bien savoir, coûte que coûte.
J'ai dit, donc, vous avez renvoyé des messages et lui ne répond pas. Il vous laisse sans nouvelles.
La seule réponse que j'ai eu deux réponses. J'ai eu une réponse, je ne viendrai, parce qu'il était... Il était possible qu'il vienne le 14 décembre parce qu'il fallait qu'il aille chercher un vélo électrique qu'il avait acheté à Paris chez son frère. C'est mon frère qui avait acheté. Donc, il redescendait. Bon, j'habite dans la Sarthe. Hein. Il redescendait sur la Sarthe pour redescendre après sur Royan. Il faisait un crochet sur la Sarthe et il m'avait dit à ce moment-là, est-ce que tu es disponible le 19 et le 20 décembre ? Et comme sa fille habite à côté de Tours, il m'a dit, ma fille m'a invitée le 21 et le 22 décembre. Je dis, pas de problème. Et puis, le deuxième message, c'est, je ne veux de contact avec personne. Alors moi, là-dessus, je me suis dit, il est en pleine déprime. Pour moi, c'était ça. Bon, rien du tout. Tout le mois de décembre, alors chaque semaine, je lui mettais bonne semaine. À Noël, je lui mets joyeux Noël. Premier de l'an, je lui ai souhaité ça, le premier de l'an.
Et lui encore une fois, il ne donnait pas de message en retour.
Non, pas du tout. Et alors, je lui ai même souhaité son anniversaire le 21 janvier.
D'accord. Et aujourd'hui, alors pour maintenant rebondir à la période actuelle qui fait votre appel, Babette, aujourd'hui, vous en êtes où? Vous n'avez toujours pas eu de nouvelles? Et comment allez-vous, vous ?
Ah oui, alors attendez, parce que la suite, c'est coton. C'est à partir de là que ça a dérapé. Vers le 26 janvier, je reçois un appel d'une amie qui a toujours des contacts. Elle le contacte assez souvent. Qui me dit, j'allais garder mes petits-enfants, qui me dit, j'ai oublié de te dire, j'ai vu Michel, excusez-moi, j'ai vu monsieur le 10 décembre. Je la laisse parler. Et puis là, je lâche le morceau. Je lui dis, non, c'est plus possible. Moi, je vais te dire ma vérité. Je dis, voilà, monsieur, je l'ai vu en visio pendant une dizaine de jours, 4 fois par jour. Alors là, elle me dit, mais c'est pas possible, il m'a menti. J'ai dit, peut-être, mais c'est comme ça. Il faut que tu l'entendes aussi. Et puis bon, elle me dit, si jamais il me retéléphone, ça va, je vais lui dire ces 4 vérités. Et le lendemain, elle me rappelle le matin, je partais l'après-midi, moi, par le train, et elle me rappelle et elle me dit, j'ai oublié de te dire bonne semaine chez tes petits-enfants, tout ça. Et tout de suite, elle me dit, en même temps, elle me dit, oh là là, il appelle. Elle me laisse le téléphone fixe, le haut-parleur. Et elle, pendant ce temps-là, elle lui a... Alors, vous auriez vu la furie. Alors là, j'ai été cataloguée de tous les noms. Que j'étais une femme entretenue, que je ne l'avais aimée que pour son chéquier et sa carte bleue, parce qu'effectivement, moi, je n'ai pas d'argent, j'ai qu'une toute petite retraite. Enfin, bon, j'avais que franchement, j'étais la moins que rien. Alors là, j'ai pris mon courage à deux mains et je lui ai marqué tout ce que j'avais envie de lui dire sur WhatsApp. Ça, c'est sûr. Et depuis, je n'ai aucune nouvelle. J'avais bloqué, j'avais eu aucune nouvelle, sauf que fin mars de cette année, il m'a demandé en ami sur Facebook.
Alors justement, donc vous êtes en ami sur Facebook et maintenant, où en est-on ?
Alors, où j'en suis maintenant ?
J'essaie, de savoir où on en est aujourd'hui, Babette.
Alors aujourd'hui, non, je n'ai plus de nouvelles, en ce sens que j'ai appris par un ami commun qui a pris de mes nouvelles il y a 15 jours, 3 semaines, qu'il n'était plus avec cette personne, qu'il l'avait laissée fin mars, et ça correspond à ce qu'il m'a demandé en ami sur Facebook, vu que moi j'avais bloqué ses numéros de téléphone. Et j'ai appris depuis, c'est lui qui me l'a dit d'ailleurs, enfin le monsieur en question, là, l'ami en question, qu'il s'était mis sur un site de rencontre et qu'il avait rencontré une certaine Claudine qui s'entendait bien avec elle. Ça fait 3 mois qu'il est avec elle, qu'elle est propriétaire de sa maison, qu'elle aime danser, que tout va bien. Tout va bien, il est en pleine lune de miel.
D'accord. Voilà. Et vous alors, Babette, vous allez comment?
Pas très bien.
Pas très bien.
Parce que j'aime toujours cet homme, en fait. J'arrive pas à m'en détacher. Pas du tout.
Et qu'est-ce qui fait, Babette, qu'on aime quelqu'un qui connaît aussi fortement les hauts et les bas, qui est capable de dire le pire après vous avoir proposé le meilleur? Qu'est-ce qui fait que... Comment comprenez-vous que malgré cela, vous ne lui tenez pas rigueur et que vous imaginiez encore tous les possibles? C'est une question un peu compliquée, parce que si vous saviez y répondre comme ça, vous ne m'appelleriez même pas d'ailleurs. Mais c'est assez important aussi même pour nos auditeurs, parce que c'est vraiment assez classiquement quelqu'un avec qui on est, qui est désobligeant ou qui est violent verbalement ou parfois physiquement. Oui. Et qu'est-ce qui fait qu'on reste avec cette personne ou qu'on continue à la rêver, à rêver le temps d'avant et le temps de la lune de miel, comme vous le disiez? Revenu. Ouais. Qu'est-ce que vous avez imaginé de possible? C'est parce qu'il a quitté plusieurs fois cette autre femme que vous vous dites qu'il va finir par revenir parce qu'il va se rendre compte que c'est moi, c'est ça?
Oui. Vous êtes dans le vrai. Vous êtes dans le vrai. C'est ce que j'arrive pas à me détacher de cet homme, parce que je l'aime encore, en fait. Hein. Et je me dis des fois, je me culpabilise, je me dis, si ça se trouve, j'aurais peut-être pas dû partir de la maison et mettre les choses bien à plat, en fin de compte, peut-être, je sais pas.
En fait, il y a un mot qui me paraît important quand vous dites « je n'arrive pas à me détacher de cet homme ». Je trouve que ce mot est intéressant parce qu'il résonne dans d'autres choses que vous avez pu me dire et qu'on peut retrouver chez vous et chez lui. C'est une notion de dépendance. Et c'est compliqué parce qu'il me semble que cet homme est dans une réelle dépendance affective qui fait que dès que ce n'est plus exactement son confort, vite, hop, à pieds joints, il saute sur la personne d'à côté. Donc c'est pour ça qu'il a fait des allers-retours entre cette autre femme et vous, comme s'il ne pouvait pas finalement jamais vivre tout seul et comme s'il ne pouvait pas supporter la moindre contradiction, un petit peu comme un enfant qui est capricieux, qui a besoin d'être sécurisé par quelqu'un qui va toujours abonder dans son sens, et comme une maman qui serait là au quart de tour. Et si elle n'est pas là, vite, il faut que quelqu'un d'autre s'occupe immédiatement de lui, sans quoi il est perdu et déprimé. Donc il me semble qu'il a un schéma psychologique, de ce que je comprends au travers de vos mots, bien sûr, hein, sinon c'est un peu de la psy de comptoir, mais c'est quelqu'un qui a un fonctionnement affectif de type addictif. Et le principe de l'addiction, c'est que finalement, je suis dépendant, je ne peux pas faire sans l'autre, et quand l'autre, évidemment, me contredit ou me déstabilise, je perds mon équilibre, du coup j'en veux à l'autre et je trouve rapidement quelqu'un d'autre pour pouvoir me mettre en sécurité, sans quoi je sombre dans mes propres tristesses et dans ma déprime, et parce que je ne me sens pas apte à me porter moi-même.
Donc, c'est tout à fait ça.
D'accord. Donc ça c'est de son côté à lui. Et de votre côté à vous, Babette, eh bien, vous dites des mots un peu similaires, qui ont un accent un peu différent, mais on est toujours dans une notion d'addiction, puisque lui, il vous dit « tu n'es avec moi que pour mon portefeuille, mon argent », comme si vous étiez donc dans une dépendance financière, que vous me dites vous-même que vous ne pouvez pas, vous n'arrivez pas à vous détacher de lui, comme vous me disiez, et d'ailleurs vous vous en êtes rendu compte vous-même, vous avez eu un très beau réflexe d'ailleurs de survie, c'est que, évidemment, il vous a dit « tu es dépendant de moi », puisque tu es dans ma maison. Et donc votre réflexe a été de chercher rapidement quelque chose pour vous loger. Et ce qui me fait dire qu'il est dans une dépendance, c'est qu'il a besoin de vous sentir dépendant de lui, tout en vous en faisant le reproche, parce que si vous êtes dépendante, il est assuré que vous n'allez pas le malmener d'une certaine manière, parce que vous allez être soumise à l'attente. D'ailleurs, il vous met sur le grill, hein, quand il sort, qu'il rentre tard, que vous attendez pour dîner. D'une certaine manière, il vous met dans une situation un peu de soumission, et vous acceptez cette soumission parce que vous-même, vous vous sentez dépendante. Donc c'est intéressant, parce que vous voyez, Babette, la relation amoureuse, nous construisons nos relations amoureuses au travers d'abord de nos premiers élans d'amour qui sont à destination de notre maman, dont nous dépendons complètement. Elle est là pour nous nourrir, nous changer, être à l'origine de notre sauvegarde. Viendra bien sûr papa, dont l'enfant prendra vite conscience. Mais petit à petit, tout l'art de l'enfant, c'est de s'autonomiser. D'ailleurs, dès que l'enfant marche, il a un plaisir fou à aller dans la pièce d'à côté pour vérifier qu'il a la compétence à quitter la mère, à quitter sa mère et à découvrir un autre univers. Mais en général, ça ne dure pas bien longtemps parce qu'à peine l'a-t-il quitté, qu'il pleure, qu'il est anxieux. Regardez tous ces enfants qu'on retrouve partis à l'aventure dans les grandes surfaces et qui on retrouve en pleurant parce qu'ils ont perdu leur maman dans un espace qui, parce qu'ils réalisent leur incompétence à pouvoir faire tout seul. Donc c'est, notre façon d'aimer commence là-dessus. Et évidemment que nous devrions pouvoir mûrir au fur et à mesure et nourrir notre relation amoureuse dans la confiance que l'on a dans l'autre, dans la capacité que nous avons à le retrouver et puis aussi à pouvoir s'en départir un temps tout en continuant à être heureux parce qu'on fait d'autres choses, on rencontre d'autres gens, on se nourrit ailleurs et puis on revient voir son partenaire ou sa partenaire. Donc évidemment que ça c'est un peu dans l'idéal. C'est le plaisir d'avoir grandi, de s'être autonomisé, mais souvent, ce n'est pas très bien pris par les gens qui nous aiment, parce qu'ils ont le sentiment que si on peut s'autonomiser, c'est qu'on n'est pas amoureux. Et souvent, nous confondons la notion d'être amoureux avec une notion de dépendance et de fusion, de ne pas pouvoir faire sans l'autre. Mais le problème, c'est que la fusion, elle est souvent extrêmement anxieuse. Elle est très agréable. Et puis, elle devient anxiogène parce que l'un et l'autre se trouvant dépendants de l'autre, il y a une grande anxiété à l'idée d'être quitté, à l'idée d'être soumis, etc. etc. Vous comprenez
Je lui ai dit, hein, mais là, je suis suivie par une psychologue sur le Mans, là, hein, où j'habite. Hein, oui. Et elle m'a posé la question de sa jeunesse, enfin, auprès de sa maman. Mm-hmm. Et je sais qu'elle m'a toujours dit qu'il était le vilain petit canard de la famille. Mm-hmm. Il n'a jamais été dorloté. Enfin, et moi, c'est pareil. J'ai pas eu, voilà, étant donné la grande fratrie qu'on était, ma maman n'a
pas eu la disponibilité.
Elle a été froide, maman. Donc, voilà, j'ai pas eu les élans de tendresse qu'il aurait fallu, peut-être. Chacun de notre côté.
Voilà, vous faites une très, très belle association. Vous avez bien compris le mécanisme. C'est-à-dire que quand un enfant a manqué furieusement de l'attention, de la tendresse, de l'attachement, d'une certaine manière, de sa maman à lui, eh bien, il est où il a une idée très dévalorisée de lui-même et il peine à créer des liens, ou il a aussi une idée à dévaloriser, mais il cherche désespérément à qui s'attacher, s'accrocher et qu'il aimera sans condition aucune. Et d'ailleurs, et il ne supporte évidemment pas, en tout cas lui, il ne supporte pas d'être contredit parce qu'il y voit la froideur ou le jugement du vilain petit canard. Quand il vous dit « je voudrais te parler mais que personne d'autre ne le sache », c'est encore une fois ne pas nourrir une idée de vilain petit canard pour toute la communauté familiale ou sociale qui pourrait le juger. Et puis c'est une façon d'avoir sa maman pour lui tout seul sans avoir à la partager avec une communauté qui, dans son histoire, c'est la communauté des enfants de la fratrie en quelque sorte. Voilà. Et donc il est dans sa souffrance. Donc ce n'est pas ce qu'on se dit là. Évidemment, on pourrait dire à quoi bon, puisque de toute façon, on ne peut pas faire du bien aux gens indépendamment de leur souhaits et puis surtout à distance. Et en plus, on part d'un être qui n'est pas en train de nous parler. Mais c'est important dans le sens où ce n'est pas vous qu'il n'aime pas. Et c'est à ça que je veux en venir. Parce que ce n'est pas vous qu'il n'aime pas. Il rejoue son idée de ne pas être aimable et son besoin d'être aimé de quelqu'un qui n'a pas de vie propre. Parce qu'il confond la difficulté qu'a eue sa mère de créer du lien avec lui avec une mère qu'il n'aurait pas aimée alors qu'en réalité elle était à autre chose ou elle était dans l'incapacité pour X raisons. Donc du coup, il a le sentiment, dès qu'on ne le regarde pas de façon exclusive et enamouré et soumise, il a le sentiment que c'est la preuve d'un désamour et qu'il va revivre cette histoire douloureuse de son enfance. Donc ce n'est pas vous qu'il n'aime pas, sauf que comme il est violent dans son propos, eh bien vous, ça réactualise aussi la froideur de l'autre qui vous aimait et vous promettait monts et merveilles et qui tout d'un coup, eh bien évidemment, se retrouve la plus grande des frustrations comme la petite fille derrière une grosse, grosse fratrie, dans une grosse fratrie, noyée dans une grosse fratrie, et qui, évidemment, peine à sentir sa valeur dans l'amour et dans l'attention particulière que tout enfant, dont tout enfant a besoin.
Et puis moi, j'étais l'aînée en plus. Hein, donc,
oui, on vous a demandé de renoncer, vous, à la tendresse, au bénéfice des plus petits qui étaient dans le besoin immédiat de soins, évidemment.
Oui, tout à fait, tout à fait. Tout ce que vous me dites là, c'est tout à fait vrai. Et vous savez, quand il m'a parlé de son ex, là, enfin maintenant, c'est son ex aussi, hein, d'après ses dires, il m'a dit, de toute façon, elle me prend pour un enfant.
Oui, vous voyez. Ben oui. Voilà. Mais parce qu'on ne peut pas le prendre pour autre chose qu'un enfant, dans la mesure où il se comporte et rejoue ses histoires d'enfant. Donc ce n'est pas parce que cette femme est malveillante et le prend pour un enfant, c'est qu'il a un comportement d'enfant.
Et moi, je lui ai dit bien souvent, souvent il me disait, mais tu me prends pour un enfant. Oui. Je dis, mais tu agis comme un enfant.
C'est ça, vous voyez.
Je lui ai dit souvent ça.
Voilà, donc quelles que soient les femmes avec qui il est, comme il a un comportement d'enfant dans sa recherche d'amour, parce qu'il ne sait pas créer un amour d'adulte, c'est-à-dire dans sa compétence à aimer l'autre sans crainte et à laisser l'autre aller et venir avec ses besoins et ses disponibilités, comme il confond tout avec comment on m'aime et qu'est-ce que je vaux à la mesure de comment on m'aime, eh bien évidemment, il est comme un enfant capricieux et tyrannique en quelque sorte, bien contre son gré d'ailleurs, hein, c'est sa souffrance psychique. Et résultat, évidemment, il se comporte comme cela et que vous le traitiez en enfant ou pas, de toute façon, quand il est en conflit, quand il est en difficulté, quand il est insatisfait, il y entend un jugement maternel qui est en train de le désaimer selon son histoire personnelle.
Oui, parce que je me souviens, ça me revient. Tout au début de notre relation, il comptait les « je t'aime » que je pouvais lui dire par moi.
Oui, c'est ça. Vous voyez, c'est dire combien il faisait provision et combien il a été... il a eu le sentiment, en tout cas, d'être privé, fortement privé, d'amour, de tendresse et de la sécurité de cet amour dont tout être humain a besoin, bien évidemment. Mais vous voyez, dans son cas, ça entraîne ce genre de comportement où il saute à pieds joints d'une femme à une autre parce qu'il lui faut tout de suite, un peu comme on aurait une maman, une nounou, une nounou, une maman, une maman, une nounou, une nounou, une maman, vous voyez.
Oui, parce que là, apparemment, c'est la lune de miel, il a dit à cette personne qui me l'a dit. Oui, tout va bien. Cette personne le prend comme il est. C'est oui. Super.
Mais comme ce fut le cas avec vous, avec vous, et où il vous a et où il a voulu aussi être l'enfant idéal, en étant l'homme idéal qui vous offre une maison. Et puis il vous dit évidemment que vous n'êtes qu'intéressé par son argent, alors que c'est lui-même qui a proposé cette compétence qui est la sienne de vous mettre dans le confort ou de vous offrir un voyage.
Ouais,
alors, est-ce qu'il faudrait ne pas avoir du plaisir à ce confort ou du plaisir à ces voyages? Bien sûr que non, ça ne vous fait pas de vous quelqu'un qui ne s'intéresse à lui que pour ça, bien évidemment.
Ça m'a beaucoup blessée, ce que j'ai entendu au téléphone, ça m'a beaucoup blessée, parce que j'aurais jamais pensé qu'il pensait ça de moi.
Mais encore une fois, il ne le pense pas de vous, et c'est vraiment ce que je voudrais que vous puissiez retenir, et auquel vous puissiez réfléchir et travailler éventuellement avec votre psychologue, c'est qu'il ne s'agit pas de vous, il s'agit de lui. Et évidemment, quand il s'agit de vous, c'est en fait de la résurgence de votre propre histoire et de vos propres manques d'affection. Mais lui n'est pas en train d'épingler une réalité d'une femme qui ne serait pas aimable ou d'une réalité d'une femme qui est pleine de défauts. Des défauts, nous en avons tous, personne n'échappe à la règle. Mais justement, c'est son incompétence à faire avec le défaut de l'autre, c'est-à-dire les non-disponibilités potentielles de l'autre, parce que lui, il est en souffrance d'amour et ça ne parle que de lui. Donc, et je dirais même que ses colères et ces noms d'oiseaux qu'il vous envoie sont plus à l'intention de sa maman qu'à votre intention.
Ah ouais.
Et c'est ça qui se rejoue avec vous. Vous en êtes l'occasion. Pardon.
Je pense qu'il y a aussi le problème de ses filles.
Bien sûr.
J'ai jamais compris qu'il ait coupé les liens avec ses filles.
Mais parce que là aussi, l'être humain est ambivalent. Il souffre de choses et il les reproduit lui-même. Et il en veut à la terre entière de ce qu'il ne peut pas obtenir. Et à la fois, eh bien, il est toujours mené un peu par le bout du nez, par son inconscient, à souffrir et se faire souffrir. Mais là, c'est son parcours qu'il a à faire de son côté psychologique. Si un jour, il veut bien
il
s'arrêter là-dessus.
Il le fera pas,
Babette. Mais vous devez le faire pour pouvoir justement, non pas prendre du large par rapport à lui, mais un peu de hauteur pour aimer les rencontres ou l'amitié ou l'amour, s'il devait y avoir encore pour vous de l'amour avec lui. Mais en tout cas, pas de la dépendance, parce que c'est cette dépendance qui vous fait souffrir plus que lui, d'ailleurs.
Oui, beaucoup. Exactement.
Voilà, Babette. En tout cas, je vous souhaite une bonne continuation. Continuez ce travail pour comprendre bien les choses et reprendre un peu d'autonomie. D'accord ?
D'accord, oui. Je vous remercie beaucoup.
Très bonne soirée, très bonne nuit.